Alors, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, évangile de Jean, chapitre 20. Et nous allons regarder deux événements importants et en tirer quelques leçons pour nous, bien sûr. Mais je pensais, en regardant, bien sûr, aux nouvelles, aux infos, etc., souvent on retrouve ces articles avec des sondages sur... Eh bien, le moral des Français par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc. Et souvent, hein, ces articles vont souligner toujours la même chose. Il y a quand même un certain pessimisme qui règne dans le pays. Et c'est-à-dire, bon, des personnes qui sont mécontentes de la situation actuelle et qui sont inquiètes pour l'avenir. Et généralement, ce genre de sentiment-là, de pessimisme, c'est basé sur peut-être le vécu, hein, les expériences passées par rapport aux circonstances présentes qui vont amener certaines personnes eh bien, à voir, comme on dit, hein, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein, mais on voit des gens qui, oui, montrent un certain pessimisme par rapport à leur avenir, par rapport à la situation. Et malheureusement, il arrive que des chrétiens se laissent happer par ce sentiment négatif et au lieu d'ancrer leur foi solidement dans les paroles du Seigneur, eh bien, ils se laissent entraîner par des pensées qui enlèvent, qui dérobent la paix, la joie que le Seigneur nous a accordée. Et souvent, il arrive qu'ils viennent même à douter des promesses de Dieu envers eux. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui connaît nos cœurs, un Dieu qui connaît nos faiblesses, qui compatit et qui sait ce que nous ressentons. Et nous avons un Dieu surtout qui désire notre paix, qui désire notre joie. Et non seulement il désire cela, mais il pourvoit à cette joie et à cette paix pour nous. Il y a une semaine de cela, nous avons célébré la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et on a souligné l'importance fondamentale de la résurrection pour notre foi. Et une foi qui n'est pas basée sur des superstitions ou des fables habilement conçues, mais sur des faits historiques, mais aussi de solides témoignages. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble à l'impact de la foi en la résurrection de Jésus-Christ, notamment par rapport à ces pensées négatives ou pessimistes que nous pourrions parfois avoir et nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Mais voilà, de passer de ce pessimisme à la paix que nous avons en Jésus-Christ. Et donc on va ce matin regarder au passage de Jean chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 19. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. » Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc oui, ce passage nous rappelle ce que le Seigneur a accompli pour ses disciples suite à sa résurrection, et de voir aussi ce matin l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les disciples et comment le Seigneur eh bien, les a aidés à sortir hein, de, pour certains, le pessimisme, pour d'autres, la crainte. Mais la leçon pour nous, c'est que eh bien, nous devons veiller. Nous devons veiller à ne pas laisser les circonstances ni même notre caractère nous empêcher de vivre dans la paix de Christ. Si aujourd'hui votre vie est caractérisée par le pessimisme, une certaine morosité, si votre vie est caractérisée par un esprit de défaitisme peut-être, eh bien, je vous invite ce matin à considérer la manière dont Christ, dont le Christ ressuscité, a transformé les disciples, des disciples apeurés, pessimistes, à cause de leur incrédulité, et de voir comment leur vie a pu être transformée par Christ. Parce que oui, rien à ce moment-là ne laissait présager que ces hommes qui étaient présents dans cette maison allaient devenir eh bien, ceux qui allaient proclamer avec courage le message de l'Évangile, non seulement à Jérusalem, mais dans le reste du pays et à travers le monde. Ce que je voudrais d'abord souligner par rapport à ces disciples, c'est qu'on voit un esprit de crainte. On voit un esprit de crainte qui a été, encore une fois, calmé par un sauveur bienveillant. À la lecture de ce passage, on découvre, oui, un groupe d'hommes complètement apeurés. Et soyons honnêtes, si nous étions à leur place, aurions-nous agi différemment? Si nous avions vu, eh bien, notre maître, notre enseignant, notre ami, être trahi, être arrêté, être injustement condamné et exécuté, mis à mort de manière odieuse et ignoble, hein, d'avoir vu cette conspiration des chefs religieux qui eux-mêmes avaient renié leurs propres règles hein, en se mettant en connivence avec le pouvoir d'un gouvernement païen, hein, romain. Tout cela dans le but d'assouvir leur haine, la haine qu'ils avaient pour Christ. Est-ce que nous aurions agi différemment? Les disciples avaient passé 3 années avec Jésus, suivant son enseignement, l'accompagnant à travers le pays, hein, lors de son ministère terrestre. Ils constituaient ce cercle intime de celui que les chefs religieux haïssaient de tout leur être, de toute leur force et de toute leur pensée. Les disciples avaient eux-mêmes été les envoyés, les prédicateurs du message de Christ. Ils avaient participé aussi à ce ministère. Il était donc logique pour eux de craindre ce que les Juifs pourraient leur faire et d'être donc la cible eux aussi de cette haine viscérale des chefs religieux. Donc il n'est pas surprenant de les retrouver terrés dans une maison complètement verrouillée. Ils craignaient pour leur vie. Et malheureusement, cette peur, cette crainte les a fait oublier les paroles de Christ. Les paroles de Christ qui, pendant son ministère, il avait averti, il avait prévenu ses disciples de ce qui allait se produire. Il avait annoncé sa mort, il avait annoncé sa résurrection. Mais la peur leur a fait oublier cela. La peur leur a fait oublier ses promesses de consolation, ses encouragements à tenir ferme dans la foi. Cette peur les a même amenés à douter du témoignage de celle qui avait annoncé que Jésus était ressuscité. Parce que, rappelez-vous, le Seigneur est d'abord apparu aux femmes. Et les femmes ont dit aux autres, « Le Seigneur est vivant !» Mais les disciples n'ont pas cru. On voit ici une claire corrélation entre la peur, l'inquiétude, le pessimisme et l'incrédulité, le manque de foi. Et bien qu'étant déjà dans cette crainte, il y a un événement extraordinaire qui va se produire et qui va quelque part susciter une peur peut-être encore plus grande que cela. Parce que là, ils sont dans l'ignorance complète de ce qui va leur arriver. Ils ne savent pas. À tout moment, ils s'attendent peut-être à ce que des soldats arrivent et les arrêtent également. Mais là, le Seigneur Jésus apparaît soudainement au milieu d'eux et il vient avec ses paroles bienveillantes, la paix soit avec vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis convaincu que si je devais faire face à une telle apparition, une immense peur m'envahirait. Hein, je me rappelle que quand j'étais enfant, je m'amusais comme ça à me cacher, puis à faire peur à mon papa qui passait dans le couloir, ou j'allais dans son bureau pendant qu'il travaillait, et puis je rampais jusque sous son bureau et je lui attrapais les jambes pour lui faire peur. Je m'amusais à faire ça faisait rire. Mais lui aussi, bon, ça lui faisait peur surtout, mais bon. Mais on sait ce que ce sentiment de quelque chose qui arrive soudainement, auquel on ne s'attend pas, de voir quelque chose d'impossible même se produire devant nos yeux, ça peut susciter une telle peur, une crainte profonde. Luc, dans son évangile, par rapport à cet événement, rapporte que les disciples croyaient même voir un fantôme, qu'ils étaient saisis de frayeur et d'épouvante. Hein, Luc chapitre 24, verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante parce qu'ils croyaient voir un esprit. À ce moment-là, il faut comprendre que leurs pensées ont certainement dû fuser dans tous les sens et à toute vitesse, la crainte qu'ils avaient déjà auparavant. Et maintenant, ceci qui se produit devant leurs yeux, ils devaient être complètement tétanisés de peur. Cette même peur peut-être qu'ils avaient connue auparavant lorsqu'ils étaient au milieu de la mer agitée par la tempête. Ils étaient saisis de crainte, d'épouvante, lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus marcher sur l'eau. Mais voilà, le Seigneur apparaît et aussitôt il cherche à les rassurer. La paix soit avec vous. Il cherche à réorienter leurs pensées sur la réalité de quoi? De sa présence, de la réalité de sa résurrection corporelle et de la réalité même de sa divinité. Il est Dieu, il sait tout. Dans le passage de Luc 24, à partir du verset 38, nous lisons même le Seigneur qui leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Le Seigneur, on le voit même réitérer cette salutation, cette parole de bienveillante envers ses disciples, et il répète encore une fois, donc, la paix soit avec vous. Il a besoin de leur faire comprendre qu'il est bien là, qu'il est bien présent au milieu d'eux, au milieu de leur affliction, au milieu de leurs craintes. Et le plus merveilleux dans tout ceci, c'est que par sa présence, lorsqu'il dit la paix soit avec vous, il a déjà répondu à ce vœu pour eux. Il est présent avec eux. Christ est notre paix, c'est ça que nous devons nous rappeler constamment, c'est que notre paix, elle est en Christ, il est notre paix. Et Christ, il est présent. La parole nous dit qu'il est présent là où deux ou trois sont réunis en son nom. Et c'est pour cela que nous encourageons et nous entretenons nous-mêmes par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels comme celui que nous avons chanté ce matin. Jésus est au milieu de nous. En petite précision par rapport à cela. C'est Damaris qui souvent choisit les cantiques pour le dimanche. Ce n'est pas moi. Et Damaris, elle ne sait pas sur quoi je vais prêcher. Mais je trouve remarquable combien souvent les cantiques qu'elle choisit sont en lien avec le thème que nous voyons dans la parole. Les chants comme Jésus au milieu de nous, les chants comme quand le vol de la tempête, tous ces chants qui nous rappellent que dans toutes les circonstances, le Seigneur est présent avec nous et que nous n'avons pas à craindre. Même dans les circonstances les plus sombres, pensez à la situation de ses disciples. C'est une situation sombre pour eux. Même dans ces situations qui nous paraissent les plus désespérées, eh bien, nous avons cette confiante certitude que rien, rien ne pourra nous séparer de la présence de Christ, de son amour pour nous. C'est ce que Paul enseigna aux Éphésiens, hein, Éphésiens chapitre 2, verset 14, Christ, hein, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons la paix en Christ. Christ est notre paix. Cette paix, c'est déjà la paix avec Dieu, n'est-ce pas? La réconciliation. Mais puisque nous avons cette réconciliation, et puisque Dieu est avec nous, qu'avons-nous donc à craindre? Ça, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Parce que lorsque l'adversaire, lui, cherche à nous rendre inutiles en suscitant des situations qui vont être propices à la peur, à la crainte, à la frayeur, à l'inquiétude, notre réflexe, ça sera de nous tourner vers Christ. C'est de réorienter nos pensées vers celui qui a déjà apporté la paix. Et c'est pourquoi Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous rappelle de ne nous inquiéter de rien. Hein, Philippiens 4, verset 6. De faire en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et notez bien ce verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et fini au verset 9, pardon, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Là encore une fois, ce n'est pas simplement d'avoir la foi, la croyance ou la connaissance que oui, Dieu nous a donné la paix, nous avons la paix en Christ, mais c'est d'agir de manière pratique selon cette vérité-là. Parce qu'en mettant en pratique l'enseignement de la parole, en fortifiant notre foi par la parole, nous avons l'assurance que la paix de Dieu nous accompagnera en toutes circonstances. Oui, la paix que Jésus donne, c'est pas une paix ordinaire. C'est une paix profonde. C'est une paix durable. Et j'aime le fait ici que Christ soit apparu au milieu d'eux. Parce que ça nous donne une image de la réalité de ce que notre vie chrétienne doit être, que Christ doit être au centre de notre vie. La paix est avec nous. Cette paix est liée à notre foi, à l'amour de Christ pour nous. Quelque temps auparavant, dans l'évangile de Jean, également au chapitre 14, verset 1er, il avait cherché à encourager ses disciples et à les fortifier et leur dit que votre cœur ne se trouble point. Et qu'est-ce qu'il leur dit après? Croyez en Dieu et croyez en moi. La paix est liée à notre foi. Plus loin, le verset 26 à 27 de Jean, chapitre 14, Jésus leur fait aussi la promesse du Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il dit au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous le savons, parfois même dans notre entourage. Beaucoup de chrétiens à travers le monde, à travers l'histoire, ont fait cette expérience de cette paix profonde en Christ dans les circonstances les plus sombres et les plus désespérées de leur vie. Et leurs témoignages touchants ont amené de nombreux autres à se confier de la même manière, de se confier entièrement dans la grâce de Dieu, comme Paul l'évoque, même dans son épître aux Romains, d'une manière un peu plus poétique. J'aime beaucoup ce passage hein, de Romains chapitre 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, notez bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On vient de chanter ça aussi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons prendre pleinement conscience de cette vérité-là. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Notez que, une fois ces 12 paroles de réconfort réitérées par le Seigneur, la paix soit avec vous, une fois que les preuves physiques de sa résurrection sont évidentes aux yeux des disciples qui sont présents, qu'est-ce que l'on voit? Luc 24, verset 41, la joie les saisit aussitôt. Ils retrouvent de la joie. Mais il y a toujours une certaine incrédulité attachée à cela. Mais ils croyaient, ils avaient toujours du mal à croire. Et il a fallu que le Seigneur, eh bien, s'assoie avec eux, mange devant eux comme par le passé, et cela pour que la joie, la paix et la foi soient entièrement rétablies. Encore une fois, l'enseignement ici pour nous, c'est que il y a des moments où oui, on va pouvoir retrouver cette joie. Ah oui, c'est bien. Mais notre foi n'est pas encore là où elle doit être. Et nous avons besoin de passer ce moment, peut-être d'intimité avec le Seigneur, pour que l'ensemble puisse être rétabli. Mais si on laisse place au doute, parce que nous ne voulons pas croire le témoignage de la parole, ni même le témoignage des autres chrétiens qui ont déjà vécu des choses, qui ont déjà fait l'expérience de la paix et de l'amour de Dieu dans leur vie, si nous laissons la place à la peur, si nous laissons la tristesse de nos circonstances dominer nos pensées, alors à ce moment-là, oui, on va vite être isolé, dépourvu de cette paix, de cette joie, et le pessimisme peut alors se saisir de nos cœurs et de nos pensées. Donc nous avons, oui, un esprit de crainte qui a été dissipé, qui a été enlevé par un sauveur bienveillant. Mais voilà, il y a un disciple qui manquait, n'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième chose que je veux noter par rapport à ce que nous avons lu ce matin. C'est que nous voyons un esprit de doute, d'incrédulité, être dissipé par un sauveur vivant. Parce que lors de cet événement, Thomas manque à l'appel, n'est-ce pas? Thomas, ce fameux Thomas, celui qui est inscrit dans l'histoire comme étant le sceptique. Moi, je ne croirais que si. Combien de fois on entend ces choses-là? Même parfois même de la bouche de chrétiens. Ah oui, moi je vais croire ça si vraiment je vais le vivre moi-même. Il a certes eu un esprit de doute, mais là encore je me pose la question, est-ce que moi j'aurais agi différemment? Tout ce dont on sait par rapport à ce disciple nous est communiqué dans cet évangile de Jean. Il y a peu d'éléments, mais avec ce que nous rapportent les Écritures concernant Thomas, eh bien, on peut brosser un certain portrait de cet homme. Il avait un caractère assez particulier. Pour certains, Thomas se distingue par cette vision pessimiste de la situation. Une humeur souvent peut-être mélancolique même. Il semble avoir eu cette habitude de repérer systématiquement les moindres problèmes, de regarder la vie de manière négative. La première transcription des paroles de Thomas, nous les retrouvons dans Jean chapitre 11, lorsque le Seigneur, eh bien, il y a cette situation avec Lazare qui est mort, le Seigneur qui va le ressusciter. Mais on retrouve Thomas qui est inquiet, inquiet pour le Seigneur, parce que il sait que s'il retourne vers Jérusalem, il y a le risque qu'il se fasse tuer. Il avait déjà failli être tué. Et là, on retrouve donc les paroles de Thomas par rapport à la situation, et il dit, allons aussi, afin de mourir avec lui. Alors là, oui, on peut voir un certain pessimisme, une certaine fatalité. Bon, il va mourir, ben on va avec, et puis on va mourir avec, voilà. Et derrière ce pessimisme affiché, il y a tout de même un certain courage. Parce qu'il n'a pas dit, Seigneur, vas-y, tu vas aller à Jérusalem, c'est bon, vas-y, mais moi, je reste ici maintenant. C'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre de marcher avec toi. J'en ai marre d'avoir ce risque dans ma vie. Non, je ne veux pas ça. Non. Même s'il prend la chose avec un certain fatalisme, il dit quand même, allons. Allons aussi afin de mourir avec lui. Et quelque part, je vois quelqu'un qui a cette loyauté envers le Seigneur. Et cette loyauté envers le Seigneur montre cet attachement profond, cet amour qu'il avait envers Jésus, préférant même risquer sa vie que d'être séparé du Seigneur. À un autre moment, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, le Seigneur avait fait cette déclaration par rapport aux demeures qu'il y a dans la maison de son Père, et qu'il le préparait une place. Et il dit au verset 3, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, on a cette réponse bizarre, un peu de Thomas, qui répond sans hésiter, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin? Or, ça peut montrer une certaine ignorance de la part de Thomas, parce que le Seigneur dit, vous savez où je vais. Mais on voit quand même quelqu'un qui se pose la question, mais comment on va faire pour te suivre si on ne sait pas où tu vas? Il montre quand même ce désir, je veux te suivre, mais je n'en connais pas le chemin. C'est alors que le Seigneur lui répond au verset suivant, ce verset qu'on connaît tous bien par cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ah oui, on pourrait facilement voir en Thomas quelqu'un de pessimiste, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui a continué de vouloir suivre le Seigneur. On ne sait pas. On ne sait pas quelles étaient les raisons précises de son absence lors de la première apparition du Seigneur à ses disciples dans cette maison. On ne sait pas. Certains cherchent à donner une explication. Ils suggèrent, voilà, c'est quelqu'un qui est pessimiste. Peut-être que, voilà, il voyait la chose tellement négativement que, il était mélancolique. Il voulait s'isoler des autres. Il voulait pas être avec les autres. Peut-être qu'il avait peur lui aussi. Et puis, il s'était caché comme il le pouvait. Mais c'est vrai que suite à la mort du Seigneur, comme les autres, Thomas a pu perdre cette confiance dans l'avenir, cette crainte ce qui pourrait se passer. L'homme avec qui il avait passé 3 années, l'homme qui avait déjà changé, bouleversé sa vie, venait d'être crucifié. Ah oui, on peut imaginer, comme les autres disciples, cette crainte, la peur, peut-être le cœur profondément meurtri par rapport à la situation. Tout ça pourrait expliquer son absence et sa réaction face à l'annonce des autres lorsqu'ils disent « Nous avons vu le Seigneur » et qu'il répond bah, « Moi, je vais croire que c'est quand je verrai. » Mais on n'a aucune certitude sur les raisons. Mais ce que nous savons pour sûr, eh bien, c'est cette fameuse réplique. Cette fameuse réplique qui lui a valu cette réputation du sceptique, celui qui a besoin d'une preuve tangible, qui va pouvoir expérimenter personnellement, n'est-ce pas? Je ne croirai que si je vois la marque des clous dans ses mains, que si je mets mon doigt sur cette marque et que si je mets ma main dans son côté. Bon, j'espère que nous ne sommes pas prompts à lui jeter la pierre. Parce que ce Thomas, je trouve qu'il a bon dos quand même. Pourquoi? On parle de lui comme celui qui est sceptique, celui qui doute, etc. Mais les 10 autres disciples, comment eux avaient-ils réagi? N'avaient-ils pas également douté? Dans Marc chapitre 16, lorsque les femmes annoncent aux disciples que le Seigneur est vivant, nous voyons au verset 8, à sortir du sépulcre, elles s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisies, elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Verset 10, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. donc l'état d'esprit hein, dans lequel ils étaient. Et verset 11, notez bien, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. On retient facilement Thomas le sceptique, mais les autres disciples n'étaient pas mieux. Et on sait qu'après cela, il apparut encore sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Combien de fois, lorsque nous sommes dans des situations où nous sommes dans ce pessimisme, la crainte de l'avenir, et que nous avons des frères et des sœurs qui viennent, qui veulent nous encourager, qui nous rappellent les promesses du Seigneur, qui nous rappellent ce que Christ a dit pour nous, pour notre vie, et nous ne les croyons pas. Combien de fois ils partagent leurs propres témoignages de vécu, leur expérience, et nous ne les croyons pas. Combien de fois? Et même lorsque Christ est là, physiquement présent au milieu d'eux, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ils étaient encore incrédules. Le récit que Marc établit apporte même ce détail peu glorieux pour les disciples. Dans Marc 16, verset 14, lorsque le Seigneur apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus ressusciter. Savez, quand on met en doute le témoignage de la parole, et quand on met en doute même le témoignage de nos frères et sœurs, de leur vécu, de comment le Seigneur les a aidés, etc., et que nous ne croyons pas, nous montrons la dureté de notre cœur. Dureté, pourquoi? Manque d'amour? Paul nous le rappelle dans ce fameux chapitre d'1 Corinthiens 13, que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais quand nous mettons en question le témoignage de comment le Seigneur a agi dans la vie des uns et des autres, que faisons-nous? Si c'était de manquer d'amour, d'avoir un cœur dur et de ne pas croire. La différence entre Thomas et les autres, peut-être, ne réside pas dans l'intensité des doutes qu'ils avaient. Peut-être était-ce dans l'ampleur de cet aspect pessimiste hein, par rapport à l'avenir. Mais voilà, 8 jours plus tard, lorsque le Seigneur apparaît la seconde fois à ses disciples, Thomas est présent. La situation est la même. La maison, elle est verrouillée. Et le Seigneur apparaît au milieu de ses disciples. C'est encore ce même Sauveur bienveillant qui vient avec la même salutation. La paix soit avec vous. Et immédiatement, il se tourne vers Thomas et l'invite à vérifier par lui-même, avec ses propres sens, non seulement avec la vue de voir Christ ressuscité, parce que certains, même en ayant vu Christ ressuscité, ne l'avaient pas reconnu, de l'entendre, mais également de le toucher, de voir par lui-même, de comprendre par lui-même que Christ est vivant, que la vérité est vivante. Thomas a bon dos, oui, parce que de tous les disciples, peut-être c'est celui qui n'a pas oublié les multiples mises en garde du Seigneur. Quand le Seigneur avait averti, par exemple, comme dans Matthieu chapitre 24, que plusieurs viendront sous son nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », le Seigneur avait averti ses disciples par rapport à cela. Peut-être que Thomas se rappelait de cela. Peut-être qu'il s'est dit, non, il faut que je m'assure par moi-même si c'est vraiment lui. Ah oui, il y a cette incrédulité parce que il a oublié ce que le Seigneur avait dit par rapport à sa mort et sa résurrection, mais peut-être il avait retenu aussi le fait que, bah, oui, il a dit ça, mais il a aussi dit qu'il y en a d'autres qui seraient passés pour lui. On ne sait pas. Mais à ce moment-là, ce que nous savons, c'est que cette réalité physique de la résurrection de Christ a saisi Thomas qui proclame haut et fort Mon Seigneur et mon Dieu. Et n'en déplaise aux témoins de Jéhovah, il s'adresse à la même personne. Mon Seigneur et mon Dieu. Et cette déclaration de foi personnelle ici, c'est la réaction logique face à cette vérité qui est présente, vivante devant lui. J'aime tellement comment nous voyons, nous ressentons même les tendres soins du Seigneur pour ses disciples à ce moment-là, et particulièrement pour Thomas. Oui, il a reproché leur incrédulité. N'oublions pas que le Seigneur a toujours cherché à enseigner ses disciples aussi. Il leur reproche donc l'incrédulité, tout comme il a raison de reprocher notre incrédulité. Mais comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, oui, nous avons la grâce d'avoir un Sauveur qui compatisse à nos faiblesses. Il sait ce que nous ressentons. Il sait ce que nous pensons. Et ce même Sauveur bienveillant désire ardemment nous maintenir dans sa paix. Et bien que le Seigneur comprenne nos doutes, il ne veut cependant pas que nous soyons noyés dans nos incertitudes, dans nos craintes. Avec tout ce que le Seigneur avait enseigné, accompli, annoncé, prophétisé, ni les 11, ni aucun d'entre nous ne devrions être incrédules quant à l'identité de Christ et l'impact que ça doit avoir dans notre vie, peu importe les circonstances. Il est Dieu et il l'a montré de manière époustouflante à ses disciples ce jour-là. La raison pour laquelle il est important pour nous de toujours placer notre foi, notre confiance en Christ, en ce Christ ressuscité et vivant, la raison pour laquelle les disciples n'ont pas hésité à donner leur propre vie pour prêcher l'Évangile, c'est pour que notre foi puisse être suscitée par ces témoignages. Jean le rappelle, à la fin de ce chapitre, dans les versets 30 et 31, il nous dit que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites pour la raison suivante, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Suite à cet événement extraordinaire, Thomas est renouvelé. Renouvelé par un esprit de paix, de confiance. Ses incertitudes sont balayées, les doutes sont effacés. Mon Seigneur, mon Dieu. Mais qu'en est-il de vous? Si aujourd'hui les doutes, les craintes vous inondent, peut-être est-ce le moment de faire le point sur votre vie spirituelle, sur votre marche avec le Seigneur, sur votre relation avec lui. Parce que nous voyons à travers ces récits l'importance de cette proximité avec le Seigneur. Quand Jésus était au milieu d'eux, tout était effacé. Les peurs, les craintes, les incertitudes, les doutes, le pessimisme, tout était effacé. Tout comme les disciples, nous devons nous rappeler des paroles du Seigneur et nous y attacher. Parce que notre foi, elle repose sur cela. L'Écriture nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Sa voix rassurante, ses paroles qui nous ramènent cette confiance et cette paix, c'est ce que nous avons besoin chaque jour. Et ça requiert de notre part, oui, de placer Christ au centre de notre vie. Ça requiert cette intimité avec lui dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans la mise en pratique, dans la communication avec Dieu par la prière. De nous rappeler des multiples promesses de Christ pour ceux qui croient en lui et qui vivent par lui et pour lui. Ce matin, pour conclure, regardons juste à cette bénédiction que le Seigneur prononce vers la fin. Si vous, aujourd'hui, vous avez placé votre foi en Christ pour le pardon de vos péchés et en lui seul, si vous avez confessé vos péchés à Dieu et demandé pardon pour vos péchés, et que vous reconnaissez que Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, que c'est que par son sacrifice que nous sommes réconciliés avec Dieu. Notez bien ce que Christ y dit pour vous, encore aujourd'hui. Verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru.
C'est bien Matthieu.
Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ici, ce que le Seigneur affirme, c'est que ceux qui croient sans avoir vu le Christ ressuscité. Sans avoir entendu de manière audible, sans avoir pu le toucher comme Thomas et les autres ont pu le faire, et qui ont cru le message de la parole de Dieu, qui ont cru le témoignage des chrétiens. Christ dit qu'ils sont heureux. Et cette bénédiction hein, concerne ceux qui donc n'ont pas, comme Thomas, pu être dans cette maison avec lui. Christ est dit heureux. Heureux, c'est pas simplement un état de bonheur et de joie, mais ça indique le fait qu'il y a cette bénédiction que nous sommes acceptés par Dieu. Dieu a employé Thomas et les autres pour propager ce message de l'Évangile. Ce message de l'Évangile qui est basé sur ce fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et il l'a fait par amour pour nous. La tradition rapporte que Thomas voyagea même jusqu'en Inde pour apporter la bonne nouvelle. Il y est mort en tant que martyr, transpercé par une lance. Mais voilà, ce que nous voyons après ces deux événements, lorsque Christ apparaît à ses disciples, aux dix, et ensuite lorsque Thomas est présent avec eux, ce que l'on voit par la suite dans le livre des Actes, ce que l'on voit dans l'histoire de l'Église, c'est qu'on voit des hommes qui ont été complètement transformés par la réalité de la résurrection de Christ. Celui qui a finalement réussi à chasser toutes leurs craintes, leurs doutes, leur pessimisme, etc. Ça les a transformés. Dieu, il peut, et il veut aussi, employer chacun d'entre nous. Toute personne qui est disposée, prête à le servir. Peu importe notre statut social, notre âge, notre personnalité, notre vécu, nous voyons que Dieu peut transformer nos cœurs et même nous rendre aptes et nous donner la capacité, la puissance de vivre pour lui et de servir le Seigneur Jésus. Et donc si vous avez cru sans avoir vu, vous êtes particulièrement béni. N'oubliez jamais cela. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'avez plus à vous laisser dominer par les inquiétudes, par les doutes, par le pessimisme. Si nous reconnaissons nos manquements, nos péchés, et que nous regardions à Christ pour obtenir la grâce, eh bien, ce qu'il a fait pour ses 11 disciples, il veut le faire pour nous et peut le faire pour nous. En quoi sommes-nous différents de ses disciples ? Ne voulez-vous pas aujourd'hui que votre vie soit définie par la joie et la paix de Christ ? Ça requiert de nous que nous nous rappelions de ses paroles, de ses promesses, de ce qu'il a accompli, de sa présence, de la réalité de la grâce que nous avons reçue en lui, et que nous laissions cela, orienter notre vie. Que nos pensées hein, soient constamment orientées vers Christ et la paix de Dieu nous accompagne. Prions.